Merci, Pasteur Jean-Fred. Et merci tout le monde de m'accorder quelques minutes de votre si précieuse attention. Le titre de mon message ce matin, c'est « Si j'avais le zèle d'un ange ». Oui, vous êtes à Québec déjà. Vous êtes à, est-ce qu'il y en a qui viennent juste comme ça? Est-ce qu'il y en a qui viennent d'en dehors de Québec? Est-ce qu'il y en a qui viennent de la rive sud, de Lévis? Levez la main. Il y en a qui viennent de plus loin, hein? Est-ce que je peux entendre le... On a des gens de Saint-Hyacinthe ce matin, quand même. C'est pas à la porte. Ici? Côte d'Ivoire? Saint-Étienne, OK, non. Côte d'Ivoire, je trouvais ça loin un peu, mais... Saint-Étienne, en haut, je sais, des fois, on voit moins vos mains. Je vous parlerai pas de moto, je vous parlerai pas de voyage, je vous parlerai même pas des anges, mais je vais vous parler du zèle. Le zèle, une qualité précieuse qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui se présente comme l'attitude de la personne qui passe à l'action, ou du moins qui refuse l'inaction. J'aimerais même dire que le zèle, c'est notre capacité à nous révolter contre le statu quo. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais quand on voit dans la parole, le zèle se manifeste souvent par notre indignation, notre empressement à agir, notre détermination à changer les choses. Est-ce qu'on vit dans un monde parfait? Est-ce qu'on vit dans un paradis? Alors, on devrait avoir besoin de zèle. Le zèle est le genre d'attitude dont les Corinthiens, l'Église de Corinthe, avaient besoin quand leur Église n'allait pas bien. Quand l'apôtre Paul a appris qu'il s'était finalement pris en main, il leur a aussitôt écrit pour exprimer son admiration pour leur zèle. Il dit, « Vous ne savez pas à quel point ça m'a fait du bien d'entendre parler de votre ardent désir, vos larmes, votre zèle. » Dans 2 Corinthiens 7, 7. Bref, la foi sans le zèle est nu-pied. Elle n'ira pas loin. Puis après avoir vu des beaux petits-enfants sur la scène pour leur consécration, je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'on a à la naissance, le zèle, mais qu'on perd en vieillissant. Une qualité des petits-enfants, voire même des bébés, une qualité qu'on oublie souvent de mentionner, c'est leur aptitude à se révolter. Les parents de jeunes enfants, Bino et Solange, vous pourrez témoigner, et les autres parents aussi qui ont encore des jeunes bébés. Quand un bébé pleure, il ne se replie pas dans un coin pour essuyer ses larmes en silence. Pas vrai? Il réclame littéralement une attention immédiate. Il fait du zèle. Il faut du zèle pour se révolter contre le statu quo. Le statu quo qui est une expression latine qui veut dire l'état dans lequel. L'état dans lequel tu t'es présenté ici ce matin. L'état dans lequel les choses sont à la maison, au quotidien. L'état dans lequel notre monde se trouve aujourd'hui. Se révolter contre le statu quo, c'est de refuser l'état actuel des choses. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen » tout de suite. On va lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 2, versets 13 à 25. Et je lis dans la seconde 21. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Dans d'autres traductions, on va voir « L'amour fervent que j'ai pour ta maison, la passion. » Ou dans une traduction que j'aime beaucoup, « La emoción que siento por tu casa ». Bon, ça veut dire la même chose. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Verset 20, les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Merci Seigneur pour ta parole. Mais pourquoi Jésus agit de la sorte? C'est une scène impressionnante. On entend parfois des gens expliquer le comportement de Jésus en soutenant qu'il a manifesté une sainte colère. Mais Jésus était-il réellement fâché? Le texte ne nous dit pas. Peut-être ne faisait-il qu'exécuter avec obéissance les ordres de son père. En tout cas, il a pris le temps de fabriquer un fouet. Donc, c'est un signe de préméditation. Pourquoi je souligne ça? C'est que Jésus n'a pas pété une coche en bon français. Il n'a pas agi de façon impulsive ou par manque de maîtrise. Écoutez-moi bien, il y a des hommes et des femmes colériques qui se justifient. C'est grave, mais ils se justifient en évoquant cette intervention de Jésus. Puis ça n'a rien à voir. Notre Seigneur est doux et humble de cœur. Alors, se comparer à lui pour se disculper du fait qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions est absurde et honteux. À vrai dire, on voit Jésus agir de cette intensité là seulement une ou deux fois dans tout l'Évangile, puis à une de ces occasions, ben c'était un arbre qu'il visait. En réalité, si tous les hommes imitaient le comportement de Jésus-Christ, il n'y aurait pas de bagarre au hockey, pas de violence dans nos foyers et plus aucun conflit armé. Des petits amen, c'est bien, je l'avais noté. Je disais, hein, on est sur la bonne voie. Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. C'était ce contre quoi il se révoltait, ce contre quoi il s'interposait. Et l'apôtre Jean a tout vu et il se rappelle le passage biblique qui lui est venu en tête. On sait que Jean a grandi dans la religion juive et quand on est un jeune juif, on entend des chants spirituels dès notre jeune âge, des cantiques souvent qu'on apprend par cœur. Et il y avait une phrase d'un chant que Jean avait souvent fredonné, avait souvent entendu, avait chanté à son tour, puis qu'il n'avait jamais vraiment compris. C'est une phrase qui dit « Le zèle de ta maison me dévore » du psaume 69. Puis, il s'était toujours demandé à quoi ça peut ressembler une personne qui est dévorée de l'intérieur par le zèle, par la dévotion envers Dieu et sa maison. Beaucoup d'entre nous savent ce que c'est d'être dévoré de l'intérieur, que ce soit par l'anxiété ou dévoré de l'intérieur par la jalousie, par la convoitise, par la honte. Mais qui peut se vanter d'être dévoré par un amour pour les choses de Dieu? C'est une bonne question. Être dévoré par un amour pour les choses de Dieu. Ce niveau élevé de dévotion me fait penser au roi Ézéchias, qui avait régné 7 siècles plus tôt à Jérusalem. Prochaine diapo, je vais vous parler un peu du legs d'Ézéchias, son héritage, son legs. La vie d'Ézéchias est justement rapportée dans 3 livres de la Bible. 2 Rois, 2 Chroniques et Ésaïe. Il est généralement présenté comme un modèle, mais la Bible ne se gêne pas pour révéler des failles importantes dans son parcours. Et on va y porter une attention aussi ce matin. Donc, j'aimerais voir avec vous trois moments charnières dans la vie d'Ézéchias. Les deux premiers moments nous montrent un zèle exemplaire. Premièrement, puis je n'ai pas les passages à l'écran, vous pourrez suivre avec moi dans votre Bible pour les dinosaures comme moi qui apportent encore leur Bible le dimanche matin. Il y a des dinosaures dans la salle. On n'est pas nombreux, là. On est vraiment... Vous pouvez ouvrir vos téléphones. Il n'y a pas beaucoup de dinosaures, je ne sais pas pourquoi. Deux Chroniques 29, le premier chapitre, le premier moment charnière dans la vie d'Ézéchias, c'est quand il accède au trône. Au moment où Ézéchias accède au trône, la maison de Dieu était dans un état lamentable. Les portes du temple étaient toutes brisées et le sanctuaire avait depuis longtemps été laissé à l'abandon. C'était pathétique. Le temple avait était loin d'une attraction touristique. Il était carrément en ruine. En fait, le temple avait été profané par le père d'Ézéchias. Il avait été profané, souillé et rempli de choses choquantes par le père d'Ézéchias, le roi Akaz. De telle sorte qu'il a fallu 16 jours pour faire un grand ménage. Verset 17. Donc, pour vous donner une idée, pensez à l'équipe de bénévoles qui fait le ménage ici fidèlement les mardis soirs dans les locaux du Carrefour et imaginez-les qui entreprennent une corvée, une méga corvée de plus de 2 semaines pour enlever toutes les idoles, les traces de... Bon, il n'y a pas d'idoles au Carrefour, mais faites le parallèle. Ça a pris 16 jours pour faire le ménage de ce temple qui avait été profané, qui avait été méprisé par le roi Akaz. Et Ézéchias s'est levé. Il a fait preuve de zèle. Il s'est révolté contre le statu quo et a amené tout un peuple avec lui. Mais si ce n'était pas assez de restaurer le culte dans son propre peuple, au royaume de Juda, qui était au sud, Ézéchias avait même l'intention d'en faire profiter le plus grand nombre. Il a ambitionné de reconvertir les tribus du nord au Seigneur. Ça n'a pas été un immense succès, mais quand même, il y a eu quelques gains. Quand on lit dans Deux Chroniques, chapitre 30, il y a eu quelques percées pour, on va dire, l'Évangile, quelques percées dans le royaume du nord. Ézéchias, il ne pouvait pas garder cette bénédiction pour lui. Il voulait en faire profiter les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple pour nous? C'est sa détermination et son zèle dépassaient les frontières de son petit confort personnel. Ça devrait nous parler aujourd'hui, à notre culture, à notre société. C'est difficile de passer du « je » au « nous ». Je me suis acheté un livre à la librairie chrétienne. J'essaie de me rappeler le titre. En tout cas, ça parle de notre individualisme. Le titre n'est pas vendeur, là. Le livre nous traite les Occidentaux littéralement d'individualistes. Mais je l'ai acheté quand même, il est en spécial. Puis je suis sûr que je vais apprendre quelque chose. Non, mais c'est bon de se faire confronter. Plusieurs commentateurs, observateurs, sociologues reconnaissent que notre société a une tendance individualiste. Bon, alors, acceptons-le, avalons la pilule. J'ai entendu parler d'un jeune garçon qui jouait au hockey et qui montrait beaucoup de potentiel. Vous allez voir, cette anecdote-là, c'est pertinent. Le jeune garçon était talentueux. Puis, alors que les parents des autres joueurs avaient tendance à leur offrir une pièce de monnaie à chaque fois qu'il comptait un but, le père de ce garçon-là avait une toute autre approche. Il lui disait, « Moi, je vais te récompenser si tu t'arranges pour faire marquer ton coéquipier qui a moins de buts que toi. Si tu t'arranges pour faire marquer le moins bon de ton équipe, là, je vais te récompenser. Et vous savez quoi? C'est le défi qu'il se donnait. Celui d'améliorer la performance des autres plutôt que la sienne. Pensez-y, un enfant qui se donne comme défi d'utiliser son talent pour mettre en valeur celui des autres. Ah, Seigneur, change mon cœur. Parce que je pense pas que j'ai jamais... Écoutez, je pense pas que j'ai eu ce genre d'attitude avec les gens que je côtoie. On veut se démarquer, on veut... Hein, on veut, oui, être des bons employés, des bons... des étudiants qui réussissent. On veut avoir une bonne performance, mais mettre les autres en valeur. Et pourtant, ça reflète tellement bien ton cœur de père qui glorifie le fils, de fils qui glorifie le père, et que dire de l'Esprit-Saint qui, sans parler de lui-même, rend témoignage au père et au fils. Quelle leçon. Et en passant, ce joueur de hockey, il a grandi, il a fini par remporter à 3 reprises le précieux trophée Lady Byng remis pour son esprit sportif, son nom, Martin Saint-Louis. Ah, je connais des gens qui l'aiment bien. On les nommera pas. Pour ce qui est d'Ézéchias, plutôt que de se laisser dévorer par la honte familiale, parce que son père, vraiment, ça a été une honte pour Israël. Mais plutôt que se laisser envahir par le désespoir, Ézéchias nous montre comment son zèle pour la maison de Dieu l'a poussé à agir au lieu de simplement se lamenter. Parlant de se lamenter, je ne vise pas personne, OK? Parlant de plainte, trouvez-vous que les gens se plaignent plus qu'avant? Oui, oui. On veut des noms. Non, c'est pas vrai. mais j'ai lu ça quelque part, OK? J'ai lu ça que les gens se plaignent plus qu'avant. Prochaine diapo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de Calimero? Je lis à l'écran. Calimero. Écoutez, je savais pas que ça avait... je pense qu'il a été censuré, hein? Hey, mais... Calimero. Mais Calimero, c'est un petit poussin noir. Écoutez, quand ça a sorti, ces dessins animés-là, 1972, je crois. La première série. Qui était né? Non, je ne vous demanderai pas de lever la main. Le petit Calimero, un petit poussin noir avec... Il a gardé une partie de sa coquille d'œuf comme chapeau. Et on l'entendait souvent dire « Ah, la vie est injuste. C'est vraiment trop injuste. » Il marmonnait souvent. Il marchait. C'était pas de la grosse animation, là. Tu voyais, à la fin d'une petite aventure, il était toujours en train de rebrousser son chemin. Il dit, c'est vraiment trop injuste. Et il se plaignait. Bon, savez-vous quoi? Il est devenu l'emblème de ces personnes qui se plaignent sans cesse, empoisonnant leur propre existence et celle de leur entourage. Au point où on a nommé un syndrome à son nom, le syndrome de Calimero. J'ai trouvé ça sur le site doctissimo.fr. Ça doit être vrai. Allez pas chercher vos prescriptions de médicaments sur ce site-là, là, mais bon, c'est intéressant, le syndrome de Calimero. Mais, OK, je veux pas tomber dans les extrêmes non plus. Ça veut pas dire qu'il faut garder tout en dedans, là. Au contraire, c'est sain. C'est sain de se confier à quelqu'un pour lui parler de ce qui va pas. Puis vous savez, on peut même prévenir le développement de maladies, plutôt que d'enfouir des émotions. Vous savez qu'est-ce qui arrive quand on enfouit des émotions douloureuses ou désagréables? Ça pourrit. Les psaumes bibliques sont un bon exemple de cette expression saine, OK? Mais quand la plainte est répétitive, elle devient chronique, au point de pratiquement faire partie de notre identité. C'est ça qu'on veut pas. Oui, les psaumes sont parsemés de prières, de lamentations, de pleurs devant l'Éternel, mais sont parsemés aussi de déclarations de la bonté, de la fidélité de Dieu. Donc, on ne veut pas que la plainte devienne une part de notre identité. Le psychologue Saverio Tomasella, qui a inventé un peu le concept, là, du syndrome de Calimero. Il explique ce phénomène de plainte comme étant un refus de se révolter. Là, vous le voyez, là. Vous le voyez pour... ça vous rappelle des souvenirs, le petit Calimero. Qui vient du grec, qui veut dire « bonjour », je crois. J'ai appris ça récemment. Calimero. Le psychologue qui a nommé ce syndrome-là de cette façon-là, il dit que cette plainte est un refus de se révolter plutôt qu'une réelle révolte. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant de faire le parallèle avec le zèle auquel les croyants sont appelés de pas uniquement se plaindre ou dénoncer, mais de passer à l'action, d'obéir et de croire que Dieu est avec nous. Donc, si je ne trouve pas une façon d'exprimer mes besoins à Dieu, puis de continuer à le servir avec joie, mais mon insatisfaction risque tôt ou tard de ressortir sous forme de plainte, que je vais parfois déguiser sous forme de requête de prière. Ah, pouvez-vous prier pour... Puis là, pouvez-vous prier pour mon voisin, là? Passe la tondeuse sur l'heure du souper, là. J'aimerais vraiment que le Seigneur touche sa tondeuse, touche son cœur. On va se plaindre aussi de nos douleurs plutôt que d'admettre à quelqu'un ce qui ne va réellement pas dans notre couple ou dans notre vie privée. C'est intéressant aussi que peut-être que nos plaintes sont une façon déguisée parce qu'on n'ose pas dire qu'est-ce qui est vraiment l'enjeu dans notre cœur, dans notre vie. Revenons à Ézéchias pour parler du deuxième moment charnière dans sa vie. Poursuivons notre étude du roi Ézéchias. On a vu en premier lieu comment il avait été proactif. C'en est un qui il s'est pas contenté de se plaindre, mais il a été proactif pour restaurer le temple et la prière. Des années plus tard, il a dû se battre pour son propre temple. Hein? Comprenez l'image du temple qui est son corps, qui était porteur d'une maladie mortelle. On le voit dans Ésaïe chapitre 38. Cette nouvelle épreuve allait-elle éteindre son zèle? C'est un beau test. Est-ce que le zèle d'Ézéchias, c'est juste quand il est en bonne santé ou quand la maladie l'a frappé? Après tout, ce n'est pas un médecin qui lui a annoncé son pronostic. C'était nul autre que le prophète Ésaïe. C'est pire que le médecin, parce que Ésaïe se trompait jamais. Et il lui a dit, « Prépare tes funérailles, mon cher Ézéchias. » En bon monarque, Ézéchias il aurait pu accueillir la nouvelle avec un grain de sel, puis dire, « Que la volonté de l'Éternel se fasse, en demeurant digne et stoïque. » Mais au contraire, il était bouleversé, il ne l'a pas caché, en pleurant à chaudes larmes toute sa détresse. Il dit, « Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. » N'est-ce pas touchant de constater l'humilité d'Ézéchias, mais aussi son goût de vivre? Mais on croit qu'il était peut-être dans la quarantaine, un très, très jeune adulte, quand la maladie l'a frappé. Mais il avait le goût de vivre. Il supplie son Dieu. Et Dieu l'a entendu. Et j'aime dire, Ézéchias a supplié et Dieu a su plier. Il y en a quelques-uns qui l'ont comprise. Vous autres. Ézéchias a supplié et l'Éternel a su plier. Je pense à un frère de l'Assemblée qui a appris qu'il avait un cancer du foie. Le genre de maladie qui ne pardonne pas. Les médecins étaient pessimistes, mais ont quand même proposé des traitements. Mais ce n'était pas sa première tempête. Et il a décidé de continuer à s'impliquer fidèlement dans son petit groupe et à servir le Seigneur avec le temps qui lui était accordé. Puis je parlais avec ce frère-là, dimanche dernier. Un an plus tard, il témoigne de ces mots du médecin. « Monsieur, on doit annuler l'opération car on ne trouve plus de cancer. » Merci Seigneur, merci Seigneur, je peux continuer à te servir. Parce que si tu es malade ou souffrante ce matin, sache que tu peux te révolter contre le statu quo et demander au Seigneur de te rétablir et de t'utiliser pour son royaume. Ces deux requêtes qui sont parfaitement compatibles. Rétablis-moi et utilise-moi. Rétablis-nous, Seigneur. Celui qui est abattu, qui est faible, celle qui peut-être a des mauvaises nouvelles, rétablis-la, Seigneur. Parce que tu es souverain et tu sais quoi faire avec nos vies, tu sais faire de nos vies des vases utiles. Puis au moment où tu vas nous rappeler dans ta présence, c'est parce qu'on aura accompli ce que tu nous as demandé d'accomplir, Seigneur. Amen. Je termine dans quelques minutes. Je pourrais faire monter les musiciens, mais en même temps, je ne veux pas que vous manquiez mon troisième point parce qu'il est vraiment bon. Fait que je vous laisse choisir. Non, vous pouvez attendre encore quelques minutes. Parce que le troisième point, je dirais que c'est peut-être le plus important. J'ai le regret de vous annoncer qu'Ézéchias s'est endormi sur ses lauriers vers la fin de sa vie. Lorsque tout commence à aller bien, méfiez-vous. Lorsque tout commence à aller bien. Je vais vous résumer l'erreur d'Ézéchias. Justement, le puissant roi de Babylone a entendu parler du témoignage d'Ézéchias, que ce roi, le petit roi de Juda avait été malade, puis il s'était rétabli. Donc, le roi lui rend visite. Bien, le roi de Babylone, il reste dans son palais, mais il envoie un ambassadeur, ce qui était déjà une grande faveur qu'il faisait à Ézéchias. Il envoie un ambassadeur auprès du roi de Juda. Et là, tout à coup, le petit roi de Juda est invité à fraterniser avec les grands de ce monde. Ouh! Il est tout excité, au point qu'il en oublie la prudence, et offre à l'étranger une visite VIP. Il lui fait voir ses quartiers, de la chambre du trésor jusqu'aux entrepôts où il conservait tout son équipement, ses quelques petites armes et ses réserves de munitions. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que l'ambassadeur babylonien, là, il a pris des notes mentales ce jour-là de ce qu'il a vu? Quand finalement le prophète Ésaïe vient voir Ézéchias puis lui fait remarquer son erreur, il lui révèle les conséquences dramatiques qui vont s'en suivre. Mais notre héros ne semble pas trop s'en faire. Je vous explique pourquoi. Parce que dans la prophétie d'Ésaïe, eh bien, ce n'est pas Ézéchias qui va être capturé, mais seulement ses enfants. C'est pas si pire, hein? Alors Ézéchias s'est contenté de dire, « Phew, au moins l'invasion babylonienne ne se fera pas de mon vivant. » Frères et sœurs, sommes-nous à ce point égocentriques pour demander à Dieu un miracle uniquement quand la situation nous touche personnellement? Pourtant, le roi, il sait que Dieu est bon et puissant. Il l'a même expérimenté personnellement, dans son corps, dans son âme. Mais il en oublie les autres. Ézéchias n'a pas montré le même zèle, d'intercesseur pour sa descendance, pour son peuple, que pour sa propre vie quand celle-ci était en jeu. Est-ce que c'est ça le legs d'Ézéchias, qui voulait juste sauver sa peau? Je pense pas. Je pense qu'il s'est repenti, mais dans deux chroniques, vous irez lire, le temps me manque ce matin. Maintenant, ça doit nous faire réfléchir. C'est des histoires, oui, bibliques, mais elles ont été écrites pour une raison. C'est pour nous faire réfléchir, pour nous servir de leçon. Puis là, j'invite les musiciens à s'approcher. Nos larmes sont-elles au rendez-vous? Nos larmes sont-elles au rendez-vous quand on pense à la destinée éternelle des gens qui nous entourent? Ou seulement quand notre vie terrestre est menacée? Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par des mains humaines, qui durera toujours. Pour nous, on a cette assurance-là, on a cette garantie-là, que notre corps, notre tente, c'est un abri temporaire, c'est notre véhicule pendant qu'on marche sur terre, mais qu'on a une demeure éternelle avec Dieu. On a cette paix-là, on a cette assurance-là, mais ce n'est pas tous qui ont ce privilège, car ils sont aveuglés par Satan. Voilà une réalité qui devrait nous révolter. Comme le chantait Jean Leloup, « Tous les chemins mènent en enfer, et quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire. » Mais écoutez bien, le loup ne dirait pas ça s'il avait rencontré l'agneau. Le loup ne dirait pas ça, car alors son pessimisme se transformerait en espoir quand il découvrait que tous les chemins ne mènent pas en enfer. Il existe un chemin vers la vie, un chemin étroit et resserré, mais accessible à quiconque croit. Ce chemin s'appelle Jésus et il te tend la main ce matin. Amen. Je crois que c'est possible d'être zélé comme Jésus, car son esprit vit en nous et nous sommes ses enfants. Ce feu qui nous dévore n'est pas une colère envers les hommes, mais une indignation envers le statu quo et envers les conséquences éternelles si rien n'est fait. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Cette passion pour les choses de Dieu, de notre Père. Alléluia. Je termine dans quelques instants, mais juste vous faire réaliser que Jésus avait une relation personnelle avec Dieu, avec son Père. Et lui, il n'avait pas besoin du temple pour prier. Il n'avait pas besoin d'offrir de sacrifices pour couvrir ses péchés. Mais il s'est indigné quand même parce qu'il a compassion des gens qui se font aveugler, soit par la religion, soit par le diable, ou même par les deux en même temps. Qui se lèvera maintenant? Est-ce que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur ce matin? Je prie, mon frère, ma sœur, que tu trouves en toi un regain de zèle dans ta relation avec Jésus. C'est ma prière, c'était le but de mon message ce matin, que tu trouves un regain de zèle. Et je termine avec ce dernier verset que je souhaitais afficher dans Apocalypse chapitre 3. « Moi, je reprends, dit Jésus, et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen.